Bonjour à toutes et à tous, à chacun, à chacune. Libre Propos vous est présenté par votre serviteur Christophe Jubien et en régie technique, c'est Simon Martin. Libre Propos, eh bien, c'est l'émission de Radio Grand Ciel qui vous permet chaque semaine, de recueillir la parole de notre évêque, Monseigneur Philippe Christoris, sur des sujets religieux, ecclésiaux, mais aussi sociaux. Et ma foi, une page de l'histoire de France est peut-être en train de s'écrire sous nos yeux par ce qu'on appelle les gilets jaunes. Nous les avons tous vus, soit à des ronds-points, soit à des péages. Qui sont-ils? Eh bien, pour ce que j'en ai vu, des hommes et des femmes de tous âges qui ont en commun d'avoir parfois du mal à boucler leur fin de mois, bien qu'ils aient souvent un travail. La plupart appartiennent à ce qu'on appelle la classe moyenne. Ils donnent l'image d'une France qui souffre, qui plie, mais qui ne veut pas rompre. Monseigneur, quel regard vous portez sur cette actualité?
Bonjour Christophe.
Bonjour.
À nouveau, je suis content d'être avec vous à ce micro. Bonjour à Simon, à la régie. Comme beaucoup de gens, j'ai vu se lever ce mouvement depuis maintenant quoi, 3 semaines environ, 3-4 semaines. Un mouvement très populaire, un mouvement de gens qui souvent sont pas ceux qu'on entend dans les médias, des gens qui travaillent effectivement, qui sont parfois, on appelle ça les territoires, un nouveau mot pour dire, au fond,
la France profonde,
ouais. La campagne, peut-être ces zones de vie où on est moins soutenu par cet élan de Internet, ces nouvelles technologies qui stimulent des économies modernes, mais qui échappent un peu à ces gens-là, quoi. Donc, des gens qui travaillent, qui ont du cœur à l'ouvrage. Moi, je suis sensible à ce mouvement parce que, assurément, il dit quelque chose d'une détresse, des gens qui n'ont pas mérité de la peine qu'ils expérimentent, qu'ils ont au quotidien, notamment qui passe par un manque d'argent, assurément, peut-être une forme aussi de dédain qu'ils ressentent, ou en tout cas d'ignorance de leur situation, sentiment que ceux qui dirigent sont loin de leur réalité à eux, ne comprennent pas ce qu'ils vivent, ou en tout cas... parlent sans les écouter. Moi, je pense qu'il faut être sensible à ces gens-là. Je prie pour ça. Je pense qu'il était bon que leur voix se fasse entendre, ouais. En tout cas.
Il y a une question que je voulais vous poser. Est-ce que parmi vos ouailles, si tant est qu'un évêque a des ouailles, en tout cas, est-ce que vous avez des gens dans votre entourage, de votre connaissance, qui sont des gilets jaunes ou qui l'ont enfilé une fois dans leur vie ces dernières semaines?
Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'étais voir des gens, notamment encore il y a 2 jours dans Chartres, des gens très simples qui étaient sur la place près des manèges, et j'ai commencé à parler avec eux, des gens qui sont sans travail, qui m'ont dit d'abord tout de suite, on n'aime pas. J'ai dit, on n'aime pas quoi? On n'aime pas la violence. Je pense que beaucoup de gens, pour le coup, gilets jaunes ou pas gilets jaunes, ont un ressenti très, très douloureux devant les violences qui se sont exprimées, qui sont le fait de quelques-uns, notamment de gens qui ont dû profiter vraiment pour aller casser et des magasins et la police et nos symboles, on peut dire, républicains. Donc la violence, elle n'est pas du tout acceptée. Mais certains y voient l'expression d'une colère aussi qui en sort en forme de violence. Ça, c'est sûr que... Donc voilà, et après ça, ils m'ont dit effectivement leur peine, que les jours sont difficiles pour eux.
Ouais.
Donc je suis... j'essaie un peu d'écouter, en tout cas, cela.
Ouais. Alors, l'historien Emmanuel Todd a théorisé il y a déjà quelques années, même pas mal d'années, sur la fracture sociale. Et le thème avait été repris ensuite par Jacques Chirac durant les élections présidentielles de 1995. Finalement, on a l'impression qu'elle est toujours là. Est-ce que vous, notamment dans votre quotidien de prêtre lorsque vous étiez à Paris, vous l'avez vu s'élargir, cette fracture sociale?
Quand j'étais à Paris, d'abord, Paris, c'est une ville qui est riche, une ville qui se développe. Ce qu'on voit, c'est que ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent doivent s'exiler hors de Paris.
Oui.
C'est-à-dire que les loyers... Les logements deviennent prohibitifs pour eux. C'est vrai que c'est absurde de penser que, par exemple, quelqu'un qui est seul, qui est, par exemple, infirmier, infirmière ou professeur, avec un revenu digne, mais pas très élevé, n'est pas capable de se loger à 40 ans dans Paris. Avoir un logement, un 40 mètres carrés, F2, F3, quoi. Il ne peut pas, à moins qu'il ait un capital par sa famille. Ça, c'est une souffrance. Et donc, cette ces gens-là, qui ne déméritent pas du tout, au contraire, doivent partir plus loin. Donc, ils existent bien. Et puis moi, je le vois ici aussi, dans la campagne, quand j'ai fait les visites pastorales dans le Perche, on voit des gens qui sont quand même simples, peu de moyens, qui ne profitent pas. C'est la grande question de ce libéralisme à outrance qui est prôné par certains. Moi, je ne peux pas penser que parce que certains seront très riches, ils vont forcément donner de la richesse aux pauvres. Je pense qu'il y a des gens qui... Ils sont un peu comme un train, le train a démarré, il y a des wagons qui restent en gare, quoi. Et ça, c'est les petits et les pauvres. Les retombées pour eux sont très pauvres, très médiocres. Il faut trouver d'autres voies, et l'Église s'oppose à ce libéralisme presque débridé, parce que il exclut, en fait. Ouais. Et la recherche de ce bien commun, ce qui est une grande valeur pour l'Église, c'est le bien de chacun, y compris le petit, y compris le dernier. C'est pas le bien d'une majorité qui a voix au chapitre. Non, c'est le bien de tous, et il faut vraiment lutter pour exclure l'exclusion, qui effectivement sépare des populations qui ne se comprennent plus. Ouais. Ça, c'est un vrai souci.
Alors moi, je suis allé voir donc les Gilets jaunes sur un rond-point à Chartres. J'ai passé un moment avec eux. Je les écoutais. Alors c'était, j'allais dire pour la plupart, mais non, c'était la totalité n'avait jamais de leur vie milité, élevé la voix contre un système. Donc pas du tout des agitateurs professionnels. Et ce que j'ai senti, au-delà même des revendications qui existent, bien sûr, il y a la suppression de l'ISF, baisse des taxes, etc. Au-delà des revendications, c'était une peur du lendemain. Et notamment pour leurs enfants. Et ça, c'est... Ça, c'est quelque chose, quoi, la peur
oui,
du lendemain et de l'avenir.
On sent une inquiétude. Depuis 70 ans, on n'a pas eu de guerre en France, mais certains commencent à s'inquiéter pour leurs enfants et leurs petits-enfants. Quel monde on va leur léguer? C'est sûr que, par exemple, la question écologique, qui est grave, mérite des moyens conséquents. Et peut-être un changement de mode de vie conséquent. Sinon, ces enfants, demain, seront face à un mur qu'ils ne franchiront pas. Et qui peut être un mur qui écroule totalement un système par des violences, même des guerres, ou bien des migrations très conséquentes. On a 1 milliard d'habitants qui vivent à moins de 1 mètre d'altitude, qui vivent au bord des mers dans beaucoup de pays. Si le niveau des mers montait un peu...
Ça va être tragique.
Ces gens vont devoir s'en aller ailleurs. C'est clair. Et ils bougeront parce qu'il faut qu'ils mangent et qu'ils vivent décemment. Donc on aura cette question-là. Après, ça suscite du coup un besoin de partager ce qu'on a, nous. Est-ce qu'on est prêt à partager? Quand une famille, par exemple, a préparé une quiche Lorraine avec quelques six personnes, par exemple, et puis qu'arrivent 2 personnes nouvelles qui débarquent un peu comme ça, des amis... On fait 8 parts, donc on aura une part plus petite quand on partage. Ça, c'est partager, c'est accepter une part plus petite pour chacun. Mais qu'est-ce qu'on trouve en échange? La joie de la rencontre, la joie de l'accueil, la joie d'être ensemble. Donc, il nous faut, dans cette société qui est quand même assez individualiste, retrouver la joie du partage, ce qui veut dire avoir une part moins grande, mais avoir d'autres joies. Et peut-être que les Gilets jaunes, d'ailleurs, nous disent, vous me le disiez, Christophe, ils se rencontrent,
oui.
Ils découvrent des formes d'amitié, de fraternité sur ces ronds-points, dans ces rendez-vous, qui brisent ce silence, qui brisent l'isolement. Et je crois que c'est un des fruits de leur mouvement.
Oui, ça nous dit des choses à nous aussi, chrétiens.
On a besoin de la rencontre. On a besoin de ce... peut-être qu'il faut apprendre à consommer moins. Moi, je suis quand même un peu affolé par la consommation. Par exemple, est-ce que dans nos caddies, il faut qu'on achète des bouteilles de Fanta qui font 2 litres alors qu'on peut boire de l'eau
C'est très mauvais d'ailleurs pour la santé, le Fanta, je le dis, j'en profite pour le dire.
On achète des choses qui sont tellement inutiles et qui coûtent au bout du compte. Ou bien, moi j'étais affolé, j'étais à la FNAC, un magasin du centre de Chartres, j'ai vu des télévisions qui font quasiment 2 mètres, qui sont magnifiques, ça c'est sûr, mais qui valent 2 500 €. Il y a des gens qui doivent acheter ces télévisions... peut-être avec des crédits à la consommation qui grèvent leur budget quotidien. Mais pourquoi une télé pareille? Est-ce qu'il ne faut pas une télé qui fasse 1 mètre? Et puis, ou même moins, quand j'étais gamin, on était petit, on était content, quoi. C'est cette excès qu'on nous présente et qui est attirant et qu'on nous vend à coup de
toujours
pub
plus.
Et de crédit, tout ça, c'est aussi déstabilisant pour nous dans la vie quotidienne.
Ouais. Nous allons parler de l'avant.
L'avant,
évidemment,
oui.
On est loin de la société de consommation avec l'avant chrétien.
Oui, mais l'avant, en même temps, c'est un beau temps. C'est le temps qui prépare Noël. Oui. Et justement, cette idée d'accueil, d'être ensemble, de voir la famille, les amis. L'avant, c'est aussi un temps d'intériorité. On prépare la crèche. La crèche, c'est des personnages qui représentent des gens simples et pauvres, hein, les bergers qui viennent à Bethléem voir l'enfant Jésus, la Vierge Marie, la maman et Joseph, son époux. Je pense qu'il y a toute une vie de prière très simple. Même il y a des lieux d'église comme les orthodoxes où on va jeûner pour vraiment libérer un peu son corps du poids d'excès de nourriture pour être disponible à la rencontre de Dieu, à la prière et à l'accueil des autres. Moi, je souhaite à tous ceux qui m'entendent que ce temps de décembre, d'avant, soit un temps heureux, très simple. Cherchons pas les cadeaux qui coûtent, mais au contraire, multiplions l'amitié, des choses simples qu'on va partager en famille, avec des voisins. Rendons la vie plus simple, mais plus riche en humanité.
Oui. Lire l'Évangile aussi, peut-être.
Alors, lire la parole de Dieu, il y a beaucoup de récits. On a les textes qui sont chaque jour proposés dans des applications. Maintenant, c'est facile sur un smartphone. Pour les messes, on peut les trouver très facilement. Par exemple, dans l'application Prions en Église ou Prier en Église. Voilà, pour avoir un texte quotidien. Oui, c'est très, très, très utile.
Oui. Est-ce que vous avez des prières particulières pendant la période de l'Avent ? Ce qui nous concerne.
Bah, moi, j'aime bien le chapelet, parce que le chapelet, ouais, c'est méditer les mystères de la vie de Jésus. Il y a les mystères de l'incarnation, l'annonce que l'ange fait à Marie, qu'elle va être maman. Elle va visiter Marie, sa cousine Élisabeth. Donc, c'est un geste de charité qu'elle fait. Elle part en hâte la voir. Elle va donner naissance à cet enfant. Puis, elle va, avec son époux Joseph, le présenter au temple, aux autorités religieuses, à Dieu, en fait, le consacrer à Dieu. Puis, voilà cette jeunesse de Jésus, quand il a 12 ans, il le cherche au temple. Hein. Donc c'est des mystères très doux, je trouve, de la vie de Jésus, que j'aime bien prier, oui.
On arrive au terme de cette émission. Je peux vous poser une dernière question. Qu'est-ce qu'il faut souhaiter à la France à ce moment précis de notre histoire ?
Un peu de sérénité. Hein. La violence est inacceptable. Elle est en tout cas, l'Écriture dit qu'il faut s'attacher au bien. Je pense qu'on peut résister dans des questions graves comme celle-ci. Martin Luther King a montré à quel point on pouvait résister au mal par la paix, par la non-violence, mais en étant ferme sur ses positions. Je pense que la violence n'est pas un bon signe du tout. C'est plutôt un signe de société malade. Donc montrons la sérénité, mais par contre, il faut effectivement que ceux qui ont des soucis conséquents l'expriment et soient entendus.
Monseigneur, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine.
Volontiers. Bonne semaine à tous.
Merci à Simon en régie technique. Je vous rappelle que cette émission, vous la retrouverez également en podcast sur le site de Radio Grand Ciel, radiograndciel.fr tout simplement. La radio qui, je vous le rappelle, rapproche les hommes.